Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, premier épisode de notre série sur les animaux, avec un texte d'Aymeric Caron et une question. L'antispécisme est-il un humanisme ? La crise environnementale que nous traversons, qui met en péril non seulement la biodiversité, mais la présence même de l'espèce humaine sur la Terre, cette crise paraît en grande partie due à une vision anthropocentrique, où l'homme s'est considéré comme supérieur à tous les autres vivants et en droit de les exploiter comme bon lui semble. N'est-il pas temps, pour l'Occident, de faire son grand mea culpa ? Après la libération de l'esclavage, après la libération de la femme, ce serait le moment de procéder à la libération animale. De là ce courant postmoderne de pensée. L'antispécisme, sur le modèle de l'antiracisme. Il s'agit de reconnaître leur dignité aux autres espèces animales et de leur accorder des droits. Cependant, les autres animaux ne parlent pas. C'est toujours l'homme ici qui parle à leur place. Ce prétendu décentrement ne serait-il pas encore un anthropocentrisme et une ventriloquie que nous imposons à nos animaux de compagnie, leur attribuant nos sentiments, leur prêtant nos propres répliques? C'est ce qu'il convient de comprendre après avoir écouté un texte d'Aymeric Caron, journaliste antispéciste, député de la France insoumise et héros de la ferme rebelle.
Qu'il n'y ait pas d'incompréhension. L'antispécisme ne nie pas les différences entre les espèces. Il est entendu qu'un humain n'est pas l'identique d'un chien, qui n'est pas lui-même l'identique d'un lézard, qui n'est pas lui-même l'identique d'une fourmi, et ainsi de suite. Chaque espèce se caractérise par des propriétés physiques et psychologiques et donc par des besoins qui lui sont propres. Ce qui est indispensable à l'une ne l'est pas forcément à l'autre. En revanche, les espèces partagent des caractéristiques, capacité à souffrir, besoins de liberté, besoins sociaux, et rien ne justifie que nous prenions en compte ces critères pour certaines d'entre elles et pas pour d'autres. Les humains sont des animaux. Il n'y a entre les autres espèces et nous-mêmes qu'une différence de degré et non de nature. Les animaux non humains partagent, dans des proportions variables, les mêmes caractéristiques que les humains. La conscience, la capacité de ressentir la douleur et d'éprouver des émotions telles que le plaisir, la tristesse, le chagrin, le manque, la joie, la souffrance, l'amour. Les animaux non humains sont pourvus, dans des proportions variables, d'intelligence. Les animaux non humains sont capables pour beaucoup d'entre eux d'empathie, de solidarité, voire de justice. Les animaux non humains possèdent certaines capacités dont sont dépourvus les humains. Les animaux non humains, sensibles, sont tous, comme nous, des individus avec un caractère propre. Aucun n'est pareil et ne ressemble plus à un autre que deux humains ne se ressemblent. Ne jamais tuer aucun être conscient. Jusqu'où peut-on et doit-on respecter cette règle ? La limite est celle de la préservation de notre propre vie. Tant que celle-ci n'est pas menacée, il n'y a aucune raison valable de tuer. Réduire au maximum son empreinte négative sur la vie, telle est selon moi la plus humaniste des philosophies.
Les humains sont des animaux. Il n'y a entre les autres espèces et nous-mêmes qu'une différence de degré et non de nature. Fabrice Adjadj, quel est le contexte de ce texte ?
Le contexte de ce texte, c'est, on doit le dire, la postmodernité, hein, la fin de l'entreprise moderne. La modernité est marquée par l'humanisme, ça c'est certain, avec cette idée que l'homme n'est pas simplement au centre de la nature, mais au centre de sa propre histoire, c'est-à-dire que Dieu n'est plus au centre, et qu'il va, par sa science, par son industrie, transformer le monde et établir un monde meilleur. Donc la modernité est une modernité, on pourrait dire, entrepreneuriale, sociale, politique. Et bien sûr, le XXe siècle a mis à mal, on pourrait dire, ces projets modernes, D'abord parce qu'ils ont conduit à des totalitarismes, parce que est apparue la bombe atomique avec cette technoscience censée produire un monde meilleur qui met au-dessus de nos têtes une menace terrible. Et en plus, la dissuasion nucléaire, finalement, prend en otage toutes les populations en permanence. Bon. Et puis, surtout, la société de la grande distribution, de la grande consommation, donc de la disparition de, on pourrait dire, de la famine, etc., non seulement produit encore plus d'inégalités, mais produit des désastres environnementaux. Et à partir de là, on est sorti du progressisme, ça a été mis en doute, on est dans une sorte de grand déclinisme, et on remet en cause l'homme. Tant que l'on pouvait croire que l'homme était capable de produire un monde meilleur, on pouvait suivre le mouvement, même s'il y avait de la casse. Mais si la casse, vous voyez, si les dégâts ne sont plus des dégâts collatéraux, mais centraux, à ce moment-là, le projet moderne est remis en cause. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. On n'est plus dans l'humanisme, on est dans le post-humanisme. Et il y a plusieurs versions du post-humanisme. Abandonner l'humain pour aller vers un Dieu qui est contre l'homme et contre l'histoire de l'homme, donc une sorte de fondamentalisme religieux, qu'il soit islamiste, bouddhiste, évangéliste, extrême, tout ce que vous voulez. Il peut y avoir une version transhumaniste où on abandonne l'humain au profit du robot, et il peut y avoir cette version antispéciste ou animaliste où, d'une certaine façon, le soupçon porté sur l'homme se retourne en nivellement de l'homme avec les autres animaux. Et donc, Aymeric Caron, qui n'est pas philosophe, il faut quand même le préciser, qui est d'abord journaliste, qui débute avec Laurent Ruquier, qui commence à être connu par là, qui maintenant se retrouve député. Nous sommes dans un monde où les journalistes deviennent finalement des hautes figures du bien commun, et là d'un bien commun qui s'étend bien sûr à toute la nature. Et c'est dans ce contexte-là que toute une pensée qui n'est plus une pensée humaniste, mais qui est une pensée anti-humaniste profondément, même si on verra que Aymeric Caron justement repropose l'antispécisme comme un humanisme au fond, mais c'est dans ce contexte-là, vous voyez, de ressentiment à l'égard de l'histoire, de remise en doute du progressisme, que ce phénomène animaliste peut se déployer. Donc il n'y a pas simplement à s'en indigner, il faut essayer de le comprendre. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître, et ça c'est un vrai problème, que la pensée moderne a eu tendance à ignorer les animaux. D'ailleurs, la pensée moderne va dire l'homme et l'animal. Là où Aristote disait l'homme et les autres animaux. Et Aristote dit bien, oui, l'homme aussi est un animal. Mais ce n'est pas une brute, ou, comme diraient les latins, ce n'est pas une bête. Nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas des bêtes. Donc, Aristote, Thomas d'Aquin, la grande tradition médiévale, insiste sur cette expression allonzoon, l'autre animal, mais il n'y a pas l'homme comme non-animal. À partir du dualisme cartésien, on va opposer, vous voyez, l'homme et l'animal. Et avec un grand terme qui est un fourre-tout en plus, on ne voit pas effectivement les différences. Donc, il y a aussi cette reconsidération de la cause animale, si j'ose dire, et de l'animalité humaine, et aussi de notre rapport au sein de questions écologiques avec les autres vivants. Donc, il y a une actualité de l'animalisme, et il ne faut pas le repousser d'un revers de la main. Ce serait un aveuglement quant à la situation dans laquelle on est. Ce serait une manière de dire on est encore à l'époque moderne, et finalement les logiques du progressisme ne sont pas remises en cause, alors que c'est quand même le cas.
Fabrice Hadj, vous avez parlé du fait qu'Aymeric Caron n'était pas un philosophe. Il y a pourtant beaucoup de philosophes de ces dernières décennies, des philosophes contemporains, qui se sont eux-mêmes penchés sur la question. Est-ce qu'il y a une généalogie ici philosophique aussi dans les propos d'Aymeric Caron?
Bien sûr, il y a une généalogie récente avec un philosophe qui enseignait en Australie d'abord, australien, Peter Singer, qui est le fils, le descendant de juifs autrichiens dont certains ont été déportés. Si je le précise, c'est pas sans importance parce que il y a chez Peter Singer un arrière-plan qui est justement l'histoire européenne qui aboutit à Auschwitz, hein, et donc une remise en cause de cette histoire européenne, et un désir de dire, mais attention, si on commence à partir d'une certaine définition de l'homme, voilà ce qu'est l'homme, eh bien on pourrait avoir une définition qui va exclure d'autres humains, certains humains. Donc il faut éviter une définition dogmatique de l'homme, et il faut avoir une morale minimale. Et Peter Singer va être, on pourrait dire, le grand tenant d'un minimalisme moral. Il va reprendre l'utilitarisme de Jeremy Bentham, l'utilitarisme anglais, où l'enjeu n'est pas de dire « voilà ce qui est bien », on va dire « le but de la morale, c'est de satisfaire au maximum les intérêts de tous ». Donc il y a une égale considération des intérêts, chacun a son système de représentation, mais le but c'est de satisfaire les intérêts de tous, et de faire en sorte que la somme totale de bien-être, de satisfaction, soit maximale ou optimale. Mais il y a en outre, à côté de ce minimum de principes, un maximum d'extension tout d'un coup de l'éthique, puisqu'on va aussi considérer tous les êtres capables de sentir et donc de souffrir. La grande question de Bentham, c'est de dire, non pas est-ce qu'ils sont doués de réflexion, est-ce qu'ils sont doués de dignité, c'est pas ça que doit considérer une action morale, c'est « can they suffer ?» Voilà, « peuvent-ils souffrir ?» Et dès qu'un être est capable de souffrance, la question se pose de l'intégrer dans notre action, si notre action peut impacter justement cet être, et de dire, ben voilà, on doit considérer aussi la souffrance animale. Alors on aboutit bien sûr à des questions extrêmement difficiles, parce que vous voyez, Peter Singer va dire, un animal en pleine santé, qui a une innervation parfaite, et qui serait un mammifère supérieur, prenez un cochon par exemple, eh bien il peut souffrir plus, d'autant qu'il a une certaine intelligence du moment où on va l'égorger, c'est pour ça qu'il crie comme un cochon, eh bien, il est peut-être supérieur à un enfant humain polyhandicapé qui aurait, par exemple, une sensibilité pauvre, et qui d'ailleurs ne pourrait que souffrir, Sylvie. Donc, il y a eu cet renversement de hiérarchisation, où on oublie la dignité humaine par rapport à certains animaux, et on ne considère que le degré de sensibilité, et pas simplement le degré général de sensibilité de tel ou tel animal, mais dans une situation particulière, est-ce que tel individu porcin ne vaudrait pas mieux, puisqu'il est plus apte au bien-être, que tel individu humain qui serait handicapé et en train de souffrir. Donc, derrière la pensée d'Emeric Caron, il y a cet utilitarisme de Peter Singer qui commence à le déployer dans un livre très intéressant, son meilleur livre, son premier livre, Practical Ethics, je ne sais plus comment ça s'appelle, Essai d'éthique pratique en français. Et puis, bien sûr, il y a son livre très célèbre, « La libération animale ». Donc, on a effectivement une arrière-pensée, et c'est là qu'on voit l'affirmation d'Emeric Caron. Il n'y a pas des différences de nature, mais de degré. On doit considérer tous les êtres doués de sensibilité et capables de souffrir, et ce n'est pas des différences de nature ou de dignité, si vous voulez, puisqu'il n'y a que des différences de degré. On souffre plus ou moins.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, l'antispécisme est-il un humanisme ? Justement Fabrice, ce point que soulève Emeric Caron, du fait qu'il n'y a pas de différence de nature entre les espèces, mais seulement une différence de degré, est-ce que ce n'est pas problématique, ne serait-ce que d'appeler les espèces des espèces, s'il n'y a qu'une différence de degré entre les différentes espèces ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème logique à ce niveau-là ? Et ensuite, toutes les différentes qualités qu'il y a entre les différentes espèces, est-ce que ça ne fait pas qu'il y a une différence de nature quand même ?
Bien sûr. D'abord, effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que des différences de degré entre les animaux ? Il y a une sorte il y a un double phénomène par rapport à ce que vous dites. D'une part, la surévaluation de l'individualité des bêtes. On va dire aucun n'est pareil et ne ressemble plus à un autre que deux humains ne se ressemblent. On est très loin de la pensée, par exemple, d'un Plutarque, on le verra dans la prochaine émission d'ailleurs, dans une prochaine émission en tout cas, que chez Plutarque, il y a une grande considération des bêtes, mais il y a cette affirmation qu'il y a Il peut y avoir plus de distance d'un homme à un autre homme que d'une espèce à une autre espèce. Bon. Cette idée, c'est qu'il y a dans l'humanité une plus grande différenciation. Et d'ailleurs, plus on monte finalement dans les degrés du vivant, plus la différenciation entre les individus, vous voyez, est grande. Vous voyez, ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande différenciation entre deux chats qu'entre deux brins d'herbe. Pourtant, on est face à des vivants. Voilà. Donc, plus on monte. Et avec l'homme, bien sûr, chaque homme, on pourrait dire, a son visage. Alors, je ne vais pas dire, ceux qui ont eu des animaux domestiques savent très bien que tel chat n'est pas le même que l'autre. Mais, voilà, on peut très bien dire qu'il y a un visage de chaque espèce, si j'ose dire, chaque espèce animale. Mais la notion de visage, par exemple, bien la tradition, le vocabulaire, l'évite à propos des autres animaux. Donc pourquoi ? Ben, précisément à cause de cette expérience de la différence, des différences de culture, des différences de race. Je sais que ce terme gêne, mais enfin des différences ethniques qu'il faut admirer et respecter, des différences individuelles, différences de culture familiale. Quand vous êtes marié et que vous arrivez dans votre belle famille, vous êtes extrêmement dépaysé et vous avez l'impression de rencontrer parfois une autre espèce humaine, si vous voulez. Bon, en tout cas, autant que si vous débarquiez, vous voyez, en étant sur une île avec des peuples sauvages, ou en tout cas ayant des mœurs très très différentes des vôtres. Donc, on voit bien cette diversité-là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une diversité qui est de plus en plus diverse à mesure qu'on est vers des espèces plus élevées. Deuxième chose, vous avez raison de dire, la notion d'espèce, des différences de degré, oui, mais enfin, on voit bien que la définition zoologique de l'espèce, c'est qu'elle peut se reproduire, les individus peuvent se reproduire ensemble, enfin, les mâles et les femelles de la même espèce, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de communicabilité absolue, si c'était qu'une différence de degré, il devrait y avoir. Et puis, surtout, à la fin, ça n'est considéré qu'un continuum sensible et ne pas voir effectivement qu'il y a des réalités extrêmement différentes. C'est la richesse de la nature qui fait qu'il y a des différences réelles d'espèces. Et pas simplement des différences de degré, du plus ou moins à l'intérieur du vivant. Ouais, c'est pas... Non, il y a des distinctions et des paliers qui sont sautés. Enfin, le dernier point que vous suggérez, Galdric, c'est... le fait qu'il y a une ambivalence dans ce que dit Aymeric Caron. D'une certaine façon, il dit « je suis antispéciste, mais l'antispécisme, c'est la position la plus humaniste ». Bon, alors, c'est pas nous qui le disons, c'est Aymeric Caron qui dit que l'antispécisme est un humanisme. Et on se retrouve face à cette difficulté dont vous parliez en introduction, c'est-à-dire le fait que malgré tout, c'est nous qui parlons pour les autres animaux. Supposons même que nous leur accordions des droits, c'est nous qui décidons des droits que nous leur accordons, c'est nous qui intenterions des procès en leur nom, etc. Donc, malgré tout, on est encore dans une logique de domestication où l'homme est en position de celui qui domestique, même si c'est au nom du droit des animaux et même si c'est pour préserver les animaux sauvages. C'est encore une position, je vais les préserver, je dois d'animal qui domestique les autres animaux. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes toujours dans une position à part. Nous faisons des symposiums pour savoir si l'homme est une bête comme les autres et s'il n'y a qu'une différence de degré, mais nous sommes les seuls à faire des symposiums. Les ours ne font pas des symposiums. Nous défendons les grizzlies, comme faisait Timothy Treadwell, qui a été dévoré par un grizzly. Vous savez, ce personnage qui est au centre du documentaire de Werner Herzog, Grizzly Man, et qui avait fondé donc une association, ce Timothy Treadwell, Grizzly People, pour la défense des grizzlies, persuadé que les hommes ne pensaient qu'à les détruire, etc., et que les grizzlies étaient plus innocents que les hommes. Bon, il s'est fait manger par un grizzly, je ne crois pas qu'il ait de lui regretter, c'était un peu, il allait vers cette fin-là, si j'ose dire, cette fin FAIM aussi, mais il n'en demeure pas moins que les grizzlies ne s'associent pas pour se poser la question de la protection des hommes ou de la protection des saumons qu'ils dévorent. Vous voyez, donc, c'est toujours une problématique humaine. Et la considération des animaux est une problématique humaine. Donc, il faut toujours se souvenir que nous parlons des animaux et nous parlons même aux animaux et que le propre de l'animal parlant que nous sommes, c'est qu'au fond, tout est parlant pour lui. C'est pas que nous parlons, c'est que nous parlons et nous parlons aussi pour. Nous sommes des porte-paroles, porte-paroles de toute la création. Et là-dessus, si Aymeric Caron avait faisait cet aveu-là, c'est-à-dire je suis le député parlant de la nature non parlante, ce serait plus juste. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il serait obligé de reconnaître ? Eh bien, que les animaux sont des animaux, les hommes sont des animaux, mais qu'ils ne sont pas des bêtes. Qu'il y a quelque chose qui les spécifie radicalement et où c'est une différence dans la nature, bien sûr, de nature, eh bien, c'est justement le fait que l'homme est un être parlant et que, étant parlant, il répond des autres êtres et donc il est responsable. Et voilà, l'enjeu, c'est le fondement même de notre responsabilité pour les autres animaux. Et donc, ça marque forcément un pas de côté par rapport aux autres espèces. Le fait que nous sommes un peu à distance et nous pouvons les prendre en charge et nous avons une responsabilité à leur égard, oui. Donc, il ne s'agit pas de leur accorder des droits, mais de reconnaître les devoirs de l'animal parlant à l'égard des autres espèces.
Justement, c'est ce qui semble explicité dans le dernier paragraphe que nous avons lu sur le fait qu'il ne fallait jamais tuer aucun être conscient. Et diminuer, enfin réduire au maximum l'empreinte négative que nous avons sur la vie. Est-ce que c'est cela, la responsabilité de l'être parlant vis-à-vis du reste du monde ?
Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on pourrait... La question, c'est, voilà, on a posé le fondement, est-ce que notre responsabilité, c'est d'être végétarien ? Au fond, c'est ça. D'abord, je n'en suis pas sûr. Peut-être notre responsabilité, c'est d'éviter la maltraitance de l'animal. Mais éviter la maltraitance, ça ne veut pas dire éviter toute forme de souffrance. Une nature où il n'y aurait plus de souffrance finirait par détruire entièrement les bêtes. C'est-à-dire un écosystème, avec sa chaîne alimentaire, c'est un lieu où des bêtes font souffrir d'autres bêtes. Et où l'épanouissement même d'une bête suppose une certaine souffrance. Et comme on dit, il faut souffrir pour être beau, voilà. Qu'est-ce qui fait le fuselage de l'antilope ? Pourquoi est-ce qu'elle est faite pour courir comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a cette forme merveilleuse à tel point que, dans le Cantique des Cantiques, la femme va être comparée à la gazelle, vous voyez, à cause de sa légèreté, de sa grâce? Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'elle est poursuivie par la griffe du guépard. S'il n'y avait pas de guépard, elle aurait la gueule d'un ruminant, elle serait une grosse vache. Donc, vous voyez bien que c'est parce qu'elle a à souffrir la prédation du guépard qu'elle a ce fuselage, qu'elle a cette beauté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est absurde ici. Et quant à la question de tuer ou pas les animaux, bien sûr que on peut, pour d'autres raisons, l'empreinte carbone de l'élevage, etc., on peut faire le choix individuellement d'être végétarien, mais j'ai aucun problème avec ça. Il y a eu des cultures profondément végétariennes. Pour ma part, je crois au fait de manger l'agneau pascal à Pâques et j'ai entendu la prédication à Joppé, cette vision de Pierre où il voit la grande nappe avec les animaux et on dit « prends et tue et mange de toutes sortes de choses ». Bon. Donc, quel est ce geste ? Ce geste n'est pas du tout... Il faut éviter dans l'abattage la maltraitance, il faut éviter... la zootechnie, on en reparlera, l'élevage, le faux élevage, la production industrielle de viande, etc. Il faut retrouver une relation d'élevage et un respect, mais un respect où la mort est présente. Et cette mort, vous voyez, on parlera des animaux qui étaient pris dans les sacrifices religieux autrefois, mais cette mort n'est pas un mépris de l'animal. C'est aussi une manière de reconnaître notre propre animalité et le fait que nous sommes proches aussi du lion, du tigre, et que nous élevons aussi des animaux, comme nous observons le guépard a, par coévolution, donné un certain type de corps à l'antilope.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Aymeric Caron, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.